France Culture.
Bonjour à toutes et à tous. C'était une mesure phare de la loi Plein Emploi 2023. Les sanctions à l'égard des demandeurs d'emploi s'alourdissent. Le décret a paru ce matin au journal officiel. Journée mondiale sans tabac et malgré la baisse du nombre de fumeurs, quel est le coût de la cigarette pour les finances publiques? Décryptage dans un instant. Nous serons en Turquie où des dizaines d'opposants au régime sont visés par des mandats d'arrêt. Et puis, à la fin de ce journal, cette question, faut-il supporter le PSG quand on est français? Les soutiens affluent des ministres aux sélectionneurs des Bleus, loin semble-t-il d'un clivage historique Paris-Provence. Nous en parlerons avec Nicolas Ourcade, sociologue spécialiste des supporters de football. C'est officiel, les demandeurs d'emploi seront davantage pénalisés en cas de manquement à leurs obligations. Le décret vient d'être publié en application de la loi Plein Emploi de 2023. Il concerne les allocataires de l'assurance chômage, mais aussi ceux du RSA, le revenu de solidarité active. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Les demandeurs d'emploi sont donc désormais soumis à un système de sanctions mobilisation.
Oui, c'est une évolution du régime de sanctions qui, rappelons-le, existait déjà. Désormais, dès le premier manquement à ses obligations, un demandeur d'emploi pourra voir son revenu ou ses allocations entamées d'au moins 30% et cependant 1 à 2 mois. Toutefois, le texte précise que si l'allocataire régularise sa situation entre-temps, il percevra à nouveau son revenu. À partir du deuxième manquement, c'est la même chose, suspension partielle ou totale des allocations ou du RSA, mais cette fois pour une durée plus longue, 1 à 4 mois. Sanction maximale envisagée, si les manquements continuent, une suppression totale pendant 4 mois qui peut aboutir in fine à une radiation définitive. Le ministère du Travail défend une logique de remobilisation des demandeurs d'emploi et d'harmonisation des régimes de sanctions applicables. France Travail avait aussi expliqué le mois dernier que cette sanction dite suspension-remobilisation avait pour avantage de ne plus rompre la relation d'accompagnement. De leur côté, les syndicats et associations de lutte contre la pauvreté qui avaient été consultés lors de l'élaboration de ce décret dénoncent un nouveau régime stigmatisant et démoralisant. Rien dans ce texte n'est dit sur les moyens mis en place pour accompagner les quelques 2 millions de foyers bénéficiaires du RSA dans leur recherche d'emploi, dénoncent entre autres ces organisations.
Les explications de Catherine Pétillon pour France Culture. La surpopulation carcérale n'a jamais atteint un tel niveau, selon les chiffres du ministère de la Justice communiqués ce matin. Les prisons françaises comptent plus de 83 000 détenus. Or, les infrastructures, elles, comptent seulement 62 000 places opérationnelles. Conséquence, la densité carcérale dépasse même les 200% dans 23 établissements ou quartiers pénitentiaires, selon les données du ministère. Y aura-t-il un jour en France une génération sans tabac? La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, annonçait en milieu de semaine l'interdiction de la cigarette dans de nombreux espaces publics, à savoir les plages, les parcs, les jardins publics et les abords d'établissements scolaires. Ces mesures doivent s'appliquer sur le territoire à partir du 1er juillet, mais en attendant ces nouvelles restrictions, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives fait un constat ce week-end. Bonjour Marie-Aimée Copleutre.
Bonjour.
Selon le bilan annuel de l'OFDT, les ventes de tabac ont reculé en France l'année dernière de 11,5%.
Oui, le réseau des quelques 22 000 buralistes français enregistre une forte baisse des volumes de tabac en 2024. 1,3 milliard paquets de cigarettes vendus en France. Une diminution continue depuis 10 ans. Cette chute de la consommation ne s'accompagne pas pour autant de la réduction du chiffre d'affaires du tabac. Il reste solide. En 2024, il a atteint 19 milliards d'euros. Et c'est en constante augmentation depuis 8 ans. Cela s'explique bien entendu par la hausse des prix du tabac. En 20 ans, selon l'INSEE, il a bondi de près de 360%. Prenons un exemple. En 2000, un paquet de cigarettes se vendait en moyenne 4 euros. Aujourd'hui, il dépasse la barre des 12 euros, ce qui apporte toujours à l'État des recettes fiscales importantes, cette année presque 13 milliards d'euros.
Mais Marie-Aimée, ce que mettent en avant les associations de lutte contre le tabac, et les chercheurs d'ailleurs, c'est l'avantage économique également lié à la baisse de la consommation de tabac.
C'est ça, le tabac engendre ce que les chercheurs désignent comme un coût social, décès, mauvaise qualité de vie, maladies respiratoires. Rappelons que le tabac est responsable de 13% des décès en France. C'est la première cause de mortalité évitable. Les dépenses de santé pour y répondre sont élevées. Santé publique France l'estime à 156 milliards d'euros chaque année. Lutter contre le tabagisme est donc un excellent investissement, selon l'OCDE, qui pourrait faire gagner d'ici 2050 plus de 14 milliards d'euros à la France.
Merci Marie-Aimée Copleutre. Demain, d'ailleurs, 1er juin, le prix de certains paquets de cigarettes augmente environ 45 centimes. Autre changement annoncé à partir de juin, le prix repère du gaz. Il baissera de 5,3%, a annoncé la commission de régulation de l'énergie. En Turquie, les arrestations se poursuivent dans les rangs du Parti républicain du peuple, le CHP, le principal parti d'opposition dont est issu le maire déchu d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, incarcéré en mars dernier. La police mène depuis ce matin une vaste opération contre une quarantaine de membres et d'élus du CHP, dont 5 de ses maires. L'opposition accuse le pouvoir d'utiliser la justice à des fins politiques. À Ankara, les précisions d'Anand Lower.
Depuis l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu il y a 2 mois et demi, c'est le 5e coup de filet dans les rangs de son parti, le CHP. L'accusation principale ne change pas, corruption. Elle vise cette fois-ci 47 personnes, dont 5 maires du parti, 3 à Istanbul et 2 à Adana dans le sud du pays. Ces arrestations s'ajoutent aux 271 autres effectuées depuis le 19 mars. En tout, 110 personnes ont été emprisonnées à ce jour, dont le maire déchu d'Istanbul, candidat de son parti à la prochaine présidentielle. Les responsables du CHP dénonce une nouvelle fois des arrestations politiques et souligne que la justice n'a produit à ce jour aucune preuve concrète des accusations graves proférées par le président Erdogan lui-même et les médias pro-gouvernementaux. Les enquêtes se basent principalement sur des témoignages, souvent anonymes, et aucun acte d'accusation n'a encore été publié. L'opposition, dans son ensemble, estime que l'objectif est non seulement d'écarter Ekrem İmamoğlu, le principal rival du chef de l'État, mais aussi de décrédibiliser le CHP, premier parti d'opposition, et vainqueur des municipales de l'an dernier.
À Ankara, Anne Andlauer. En Ukraine, les autorités ont annoncé l'évacuation de 11 villages en raison des bombardements dans la région de Soumy, au nord-est de l'Ukraine, à la frontière avec la Russie. Kiev craint une offensive russe dans la zone. Au total, 213 localités de la région sont déjà placées sous ordre d'évacuation. Au Nigeria, plus de 150 personnes ont péri dans les récentes inondations qui ont touché la ville de Mokwa, dans le centre du pays, où des milliers de personnes ont été déplacées. Les secouristes redoutent un bilan encore plus lourd. Des pluies torrentielles se sont déclenchées mercredi soir. Or, la saison des pluies commence à peine et doit s'étendre jusqu'à septembre. Midi 38 sur France Culture, plus que quelques heures avant un match de football très attendu. La finale de la Ligue des Champions, elle oppose le PSG.